Nostalgie, il est 5h. Les plus grands tubes.
Boys, boys, boys.
Everybody, summertime love. Be my lover, be my baby. nation.
Bon moisi, chef du restaurant Les Joyeux Graillons, qui hélas n'a pas eu l'honneur d'être distingué cette année.
Ah bah voilà, je suis la Marine Le Pen de la cuisine, inéligible, mais au guide Michelin. Ah non, on me boycotte Estelle, je vois bien que je dérange, mais manger chez moi, je peux vous le dire les amis, c'est une expérience unique.
Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça Bernard ?
Eh bah... aucun client n'est jamais revenu.
Ah oui, il y a peut-être une explication.
Oh, tout de suite. Je sais, vous parlez du fameux commentaire là, sur TripAdvisor. Là. Oui. C'est une faute de frappe, voilà tout. Au lieu de « j'y ai mangé, il faut s'y rendre d'urgence », le client avait marqué « j'y ai mangé, il faut se rendre aux urgences ». Voilà, de toute façon, je vais vous le dire, les restaurants étoilés, c'est hors de prix. Moi, je suis un peu le Chine de la gastronomie. Pas cher, rapide et...
Et pas bon, visiblement. Bernard, qu'est-ce qu'on peut déguster au Joyeux Graillon ?
Ah, Perico va être content, j'ai mon plat signature. Alors, c'est des rillons de veau trempés pendant 12 heures dans de la graisse d'agneau.
Ouais.
Non, attendez, parce que... Non, ou alors c'est des rillons d'agneau à la graisse de... Ah, je sais plus, en tout cas, c'est un truc en haut. Et avec ça, j'offre évidemment un Dijon et un Smecta, parce que ça peut secouer toute cette graisse. J'ai aussi une salade de champignons et celle qui pourrait vous plaire. Je récupère directement sous les pieds d'Eduardo, mon de cuisine. Ces petits champignons, mais bon, tout ça, c'est une cuisine trop avant-gardiste pour le guide, évidemment.
Ouais, c'est pas très Michelin compatible. Hein, quoi.
Ouais, mais de toute façon, Michelin, qu'est-ce qu'ils viennent foutre dans la cuisine, hein ? Moi, mes steaks, ils sont durs comme du pneu, c'est pas pour ça que je vais les vendre chez Midas.
Bernard, ça fait longtemps que vous êtes cuisinier ?
Alors, moi, j'ai appris sur le tas, hein. J'étais dans la restauration collective. Mm-hmm. J'étais chef dans une école privée à Bétaram. Les gamins adoraient tellement ma cuisine qu'ils restaient jusqu'à la dernière minute le soir. Ils voulaient jamais repartir au dortoir. Alors là, je me suis dit, mon Bernie, il faut que tu te lances.
C'est la nouvelle tendance du moment. Les grands-parents qui refusent de devenir les babysitters attitrés de leurs petits-enfants. Ils revendiquent le droit à profiter de la vie. Et pour en parler, je reçois le président du collectif Papy fait de la résistance, ouais. Albert Chigax.
Ouais,
bonjour.
Bonjour Madame Denier. Ouais, nous revendiquons le droit à kiffer pleinement notre life sans contraintes, sans moufler et surtout sans pantoufles. D'ailleurs, avant-hier, ils nous ont fait le plus beau cadeau possible pour la fête des grands-mères.
Des fleurs, des chocolats.
Non, mieux, ils sont pas venus. Oh, quel kiff. Oh là là, mais vraiment royal.
Oh mais vous êtes horrible, vous aimez vos petits-enfants quand même.
Ouais, bien sûr qu'on les aime. Comme ça, coucou, de loin, hein, chez leurs parents. Ou en FaceTime, à la limite. Ah, par contre, il y a une règle. Pour les parents qui nous écoutent, je leur rappelle la règle, les appels en visio. On laisse pas les enfants se filmer eux-mêmes, parce qu'ils filment le plafond, ils filment le sol, ils filment les murs. Et puis nous, après, bah, on dégobie nos lentilles saucisses. Donc, merci. Ah, écoutez, c'est ma fille, justement. Ouais, Charlotte, ouais. Non, on n'a rien prévu ce week-end. Pourquoi tu veux... Ah, tu veux nous laisser les... Voilà, le four est joué.
C'est pratique, vous avez d'autres astuces ?
Ouais, j'ai tout plein d'astuces, comme ça. Déjà, quand ils me les laissent, je leur dis que le wifi est en panne. Je peux vous dire que passer un week-end sans wifi chez papy et mamie pour des ados, c'est comme passer un week-end chez Morandini. Vous le faites une fois, mais pas deux.
Oh, mais quelle horreur ! Et vous les prenez quand même de temps en temps, j'imagine.
Ah non, c'est fini. Bah attendez, ça commence par 2 heures le vendredi, et puis après, hop, un resto, et puis ça finit par 2 jours entiers pendant qu'ils vont se la couler douce à Marrakech. Donc maintenant, avec Martine, on leur dit Nikoumouk. Et bah on les prend pas, et puis on se protège.
Mais c'est-à-dire
J'ai mis des pièges à loups dans mon jardin pour dissuader ma fille de me confier ses gosses, plus une herse à pointe sur l'allée, vous savez, pour pas qu'ils se garent avec la voiture, et j'ai posé des alarmes anti-intrusion. Alors ça, c'est très pratique. Dès qu'elle arrive avec ses enfants à moins de 100 mètres, il y a ça qui se déclenche. Une cuge, et voilà.
Et ce midi, dans un contexte mondial tendu, notre invité est venu faire un point sur la situation de l'armée en France. C'est le colonel Malburne. Bonjour mon colonel.
Faites vite mon petit, j'ai mon char Leclerc garé devant le bâtiment. Et vu la gueule du budget des armées, c'est pas le moment de se prendre une prune. Eh oui, j'espère que c'est pas à vous la Mini qui était garée devant parce qu'il n'y avait pas de place, alors je me suis garé dessus. Là, c'est plus une Mini, c'est un Blinis maintenant.
Sympa, j'allais la vendre en plus. Voilà. Parlons des stocks de l'armée. Oui. Selon plusieurs enquêtes, la France vend beaucoup d'armes, mais n'en aurait plus assez pour elle. Est-ce que ça vous confirmez ?
Mais Estelle, en France, on n'a pas de munitions, mais on a des idées. Et en cas d'invasion russe, on a préparé une ligne de défense dans tout le nord-ouest de la France.
Voilà. Comme la ligne Maginot.
Oui, alors on fait avec les moyens
du bord. Du coup, ça sera la ligne Calogero. 10 000 haut-parleurs pour diffuser son dernier album à fond. Je peux vous dire que j'ai moi-même testé le dispositif. Et bah, j'ai signé un ordre de réédition 5 minutes après. Hein. Non, c'est pas possible.
Ça va être un peu léger en cas d'attaque russe.
Ne vous inquiétez pas, nous avons notre arme secrète. Voilà.
Ah bon ? Mais c'est quoi ? C'est une nouvelle arme, une bombe nouvelle génération ?
Non, non, c'est beaucoup plus redoutable que ça. Les surveillants de Betaram.
Oh non,
d'une carpe. Des gens qui aiment faire du sale, ça a toujours fait du propre dans l'armée. Hein. Je peux vous dire que là, on est en train de monter tout un bataillon de surveillants des écoles catholiques de France. Je souhaite pas à mon pire ennemi de tomber dessus. Ni à mes enfants, d'ailleurs.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet.
RMC, les grandes gueules du sport.
On se retrouve tout à l'heure, à partir de 9h, pour les grandes gueules du sport, avec Julien Beneteau, Denis Charvet, Fred Le Canu et Christophe Cessieux. Au programme, du suspense partout en Ligue 1 à 3 journées de la fin. Assistons-nous à une grande saison. Le choc ce week-end, en demi-finale de Champions Cup, UBB Stade Toulousain, c'est dimanche. La fessée en finale du top 14 la saison dernière compte-t-elle encore ? Et puis nous parlerons de Carlos Alcaraz. L'Espagnol ne sait pas s'il veut devenir une légende de son sport. Un champion peut-il renoncer à écrire l'histoire ? A tout à l'heure, 9h pour les grandes gueules du sport sur RMC.
RMC, 9h midi.
Les grandes gueules du sport.
RMC partout. RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Tous les week-ends, de midi à 13h, c'est les Paris RMC.
Conseils, pronostics, meilleures cotes, préparez vos paris sportifs du week-end avec la Dream Team Sport RMC.
Les Paris RMC, le rendez-vous des parieurs, tous les samedis et dimanches, midi 13h, avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
T'es content, toi ?
Ne pas se réjouir d'un gain, ne pas s'attrister d'une perte.
Dis rien, une petite gêne. Un game dans une chaussure, un poil de cul coincé entre les dents. C'est basse, poil de cul.
Cette séquence culte, vous l'avez reconnue, c'est celle du film Tanguy, dans lequel des parents, André Dussolier et Sabine Azéma, tentent désespérément de faire partir leur fils de 28 ans de leur maison. Et à l'image de ce Tanguy, eh bien de plus en plus d'adultes vivent chez leurs parents. Près de 5 millions, dont 1 300 000 actifs. Comment ça s'explique, Martin Bourdin ?
Ça peut refléter des salaires trop bas et des niveaux de loyer trop élevé. Voilà ce que nous dit la Fondation pour le logement des défavorisés qui a réalisé cette étude. Tu l'as dit, Estelle, près de 5 millions d'adultes hébergés chez leurs parents l'année dernière. C'est 250 000 de plus en 7 ans. Et sur ces 5 millions, 17% ont entre 25 et 34 ans. 7% ont plus de 35 ans. J'ai sorti la calculatrice, ça fait grosso modo 1 100 000 personnes de plus de 25 ans qui vivent chez leurs parents. Des parents qui les aident financièrement, tous ces tanguis comme on les appelle. L'INSEE nous précise que ceux en situation d'emploi ont reçu en moyenne 305 euros par mois de leurs parents et grands-parents, souvent pour faire face à de nouvelles dépenses, évidemment l'achat d'une voiture pour aller au boulot, l'emménagement dans un nouvel appart. Ce phénomène des tanguis touche aussi plus les hommes que les femmes. 6 tanguis sur 10 sont des garçons, et c'est particulièrement vrai à partir de 30 ans, puisqu'à cet âge, 3% des femmes seulement vivent chez leurs parents. Chez les hommes, ça monte à 13%, 4 fois plus.
Alors, vivre chez ses parents après 30 ans, est-ce l'enfer ou le paradis ? Élise Godefard, vous êtes partie à quel âge ?
25 ans.
Ah, c'est tard quand même !
Ouais, j'ai trouvé déjà que c'était très tard.
Ah bah ouais ?
J'ai bien profité jusqu'à la dernière euro. Au dernier euro.
Et c'est vos parents qui vous ont mis dehors ?
Non, c'est moi qui me suis auto-mise dehors, mais mes parents avaient plutôt hâte que je m'en aille. Ah. Parce que c'est vrai qu'on prend de la place, hein. Il n'y a pas à dire, surtout plus on grandit. Je commençais à inviter mes copains à la maison et tout. Mais moi, je sais pas comment les gens de plus de 30 ans font pour tolérer de vivre chez leurs parents. Moi, je vais chez mes parents parfois dormir le week-end.
Oh, c'est mignon.
Non, c'est pas mignon, c'est horrible. J'ai envie de les massacrer.
Mais pourquoi ?
On se supporte plus, je sais pas. Ils reprennent les habitudes de quand j'étais petite.
Mais oui, ils te chouchoutent. Ta mère, elle te dit, oh, je t'ai fait un petit jus d'orange pressé. Moi, ma mère, elle fait
non,
ça.
Non, non, moi, elle me saoule, elle me dit, fais le ménage, on dirait un clochard, alors que je viens juste dormir deux nuits. Bon, ils me font les trucs de quand j'étais enfant, quoi. Par contre, ce qui est trop bien quand on retourne chez ses parents, c'est que, on paye pas le ménage et on paye pas les courses dans le frigo. C'est-à-dire que quand tu vis chez tes parents,
bah oui, moi,
ma meuf, elle est interne en médecine. Donc, elle a 26 ans et elle vit chez ses parents, parce que quand t'es interne, tu gagnes rien. Donc, le seul moyen de survivre, c'est de vivre chez ses parents. Et ben, elle se rend pas compte que c'est tout un budget quand même de faire des courses, de ranger l'appartement, d'acheter des produits ménagers. quand elle vient chez moi, elle me dit mais je comprends pas, elle se rend pas compte que je paye un loyer en fait. D'accord. Donc il y a plein de choses auxquelles tu penses pas quand tu vis chez tes parents, ce qui c'est une charge mentale en moins quand même.
Perico Legas, vous avez plusieurs enfants, ils sont ados et puis bientôt ils auront l'âge de partir de la maison. Vous regretterez qu'ils partent ou au contraire, je ne vais pas dire bon débarras, mais vous serez heureux qu'ils prennent leur envol ou est-ce que vous allez essayer de les garder le plus longtemps possible?
S'ils veulent partir très tôt, et ça c'est toujours, je connais tellement de parents qui m'ont dit le jour où la chambre est vide, le dernier qui s'en va.
C'est dur. Hein.
Souvent c'est progressif, quelquefois c'est du jour au lendemain. Ouais. D'ailleurs souvent on installe l'enfant dans le nouvel appartement, on investit un petit peu.
C'est horrible.
Et puis le soir on se retrouve avec sa femme. Ou son mari, on se dit enfin, moi je dis souvent à mon lit, enfin je pourrais te retrouver, on pourra retrouver la vie que nous avions avant les enfants. Les parents me disent non, ça se passe pas du tout comme ça.
Non. Voilà. Ben non.
Et puis il y a la formule où le gosse ne part pas, voilà, qui est très bien comme ça. Alors ça dépend des pays. Je connais des pays comme l'Espagne ou l'Italie où il arrive que les enfants restent très tardivement à la famille.
Ils gardent leurs parents surtout.
Et ils donnent
ça.
La totalité du salaire. Ouais. Tant qu'ils sont à la maison, ils donnent la totalité du salaire aux parents. Donc, voyez, on joue à une règle. Règle du jeu. Aujourd'hui, ça. Non, quel est le problème? Il y a un tel individu. Il est vrai, loyer, salaire. Un tel individualisme qu'aujourd'hui, mais mon Dieu, on reste bien chez ses parents parce qu'on n'a pas conscience. Je connais encore des adolescents qui me disent, enfin des gens qui ont été à 18 ans, je suis parti quoi qu'il arrive, et je m'entendais avec mes parents, j'ai bouffé de la vache enragée, ouais. Je ne voulais pas rester chez moi, j'avais besoin de vivre ma vie seule.
Ouais. Moi, j'ai fait ça à 17 ans.
Qui était dans des conditions, il y en a qui partaient aux États-Unis, qui avaient une deux chevaux qui partaient, mais pas restaient à la maison. Et aujourd'hui, je vois des gens qui me disent, et quand je pose la question, est-ce que tu vas faire des études, tu vas te marier, tu as des gens qui ont 18 ou 19 ans, qui me disent, pour l'instant, je suis bien, je suis mes parents, je suis tranquille, je vais.
Ah oui, j'ai mais tu payes pas de loyer, t'as la sécurité, t'es bien.
Et le sens de l'honneur.
Tes parents, ils font à manger.
Et le sens de l'honneur.
Dis donc, moi je suis content que mes enfants, l'honneur. Ils restent le plus longtemps possible.
Alors moi, j'appréhende.
Ah bon?
Oui,
j'appréhende qu'ils partent ou t'appréhendes qu'ils restent?
Non, qu'ils partent.
Ah bah ouais. Alors. C'est dur quand le petit dernier il part, c'est dur.
Ah, il m'a dit, papa, est-ce que tu veux que je reste avec toi pour m'occuper de toi toute ta vie? Ouais. Je lui ai dit, on va en discuter, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée.
Moi, je discute pas, je dis oui tout de suite.
Mais j'oserais pas, vous voyez.
Ah, moi, j'oserais, ça ne dérange pas. Mais je crois que c'est pas son souhait. Jean-Philippe Doux, quel regard justement vous portez sur ces enfants de plus de 25 ans? C'est plus des enfants d'ailleurs, sur ces adultes qui restent chez leurs parents.
Je trouve que c'est une anomalie parce que on est des animaux, il y a un nid, l'oisillon, une fois qu'il s'est volé, il ne revient pas dans le nid en fait, il s'en va. Et cette peur de la chambre vide, moi je l'ai vécu au moment de la séparation, parce qu'on est en garde alternée. Et donc je me suis rendu compte qu'en effet c'était dur, mais qu'au final, pendant la semaine où j'ai pas les enfants, je retrouve une vie qui m'appartient, une vie pleine, etc. Donc je trouve pas ça normal que les parents acceptent.
Parce que tu sais que tu les retrouves derrière.
Bah oui.
Ah oui, peut-être.
Bah oui.
Mais en tout cas, c'est pas normal, je trouve, ni pour les parents ni pour les enfants. C'est l'enfer, je pense, pour les deux. On n'a pas le même rythme de vie, on n'a pas la même vision de la vie. Et en plus, enfin, les enfants sont voués à devenir parents eux-mêmes. Et c'est pas normal. Enfin, il faut les sortir de son propre nid pour que lui aille construire son nid à lui pour avoir des enfants. C'est la vie.
Mais on si élève. On s'entend bien, si ça marche bien,
mais non, mais il faut casser. Je sais, c'est très confortable. Mais on élève les enfants. C'est-à-dire qu'on les emmène plus haut. Et je trouve que les garder chez soi, ce n'est pas les élever, c'est les couver. Et ça, oui. Ça va. On couve un œuf, mais on couve pas un poulet.
Et voilà. je pense que
suis très agriculteur.
Je sais pas si on peut couver un poulet.
Plus t'es indépendant aussi dans la vie professionnelle. Les gens qui habitent encore chez leurs parents, je pense qu'ils sont, enfin, en tout cas à 30 ans, je pense qu'ils sont un peu plus en retard professionnellement.
Oui.
Je pense c'est sûr qu'il y a des études qui montrent que
bah, ils ont que pas faim, quoi, puisqu'on leur donne à manger.
Ils ont pas la dalle, exactement.
Ah, ils ont pas la dalle. On peut avoir. Non, attends. Et souvent, tu disais des étudiants en médecine. C'est 14 ans d'études en médecine. Donc effectivement, c'est rare d'être interne en médecine et à 26 ans de partir de chez soi. Donc t'as des professions comme ça où t'es obligé de rester chez tes parents parce que t'as pas les moyens de vivre tout seul.
Il y a des exceptions, c'est vrai.
Évidemment, mais voilà. Aujourd'hui, les salaires, c'est compliqué. Les logements sont hyper chers. Ouais. Voilà, faut prendre aussi ça en compte et garder nos enfants.
Et sans parler des parents âgés seuls qui repartiraient bien vivre chez les enfants. Ça, c'est l'autre bout.
Ça, c'est un peu l'enfer. On a Cyril en ligne avec nous qui nous appelle de région parisienne, qui est fonctionnaire de police. Bonjour Cyril.
Bonjour, bonjour toute l'équipe.
Bonjour.
Cyril, vous avez encore vos enfants chez vous?
Non, moi j'en ai qu'une, donc j'ai ma fille, elle a 23 ans, elle a fini ses études, elle travaille, et tant qu'elle pourra rester à la maison, qu'elle reste à la maison.
Ah ouais, mais alors...
Moi, c'est un véritable plaisir d'avoir ma fille à la maison. Moi, élever des enfants, c'est pas nécessairement les mettre dans la difficulté, on peut les élever sans les couver.
Mais
j'ai une grande maison... On peut très bien se croiser, il n'y a aucun souci, ça ne pose pas de problème. Elle fait sa vie, on fait notre vie, c'est parfait, c'est parfait.
Et pardon Cyril, mais c'est quoi son salaire à votre fille, à peu près?
À peu près 2000.
Ah oui, donc elle pourrait
Typeuse.
Elle pourrait vivre toute seule, je veux dire.
Et elle paye.
Mais bien sûr, elle pourrait. Mais à 2000, quand on regarde révision de la voiture, les assurances, tout ce qu'il y a, il va pas lui rester grand-chose. Là, en plus, l'avantage, c'est qu'elle n'est pas dépensière. Ça veut dire qu'elle travaille depuis, on va dire, 8 mois. Ouais. Elle a quasiment 14 000 euros d'économie.
Ah oui, donc vous payez tout, elle ne paye pas de loyer alors?
Bah, pourquoi payer un loyer? J'ai plus de crédit pour ma maison.
Il y a des enfants qui participent.
Ah ouais.
Oui, elle pourra participer, mais je ne vois pas la nécessité à ce qu'elle participe. Moi, ma vie, elle est faite. Mon épouse, sa vie, elle est faite. Notre vie est faite. Et bien, si on peut favoriser notre fille et qu'elle prenne son envol, quand elle prendra son envol, et bien, tant mieux pour elle. Il n'y a aucun impératif à devoir la mettre dans la difficulté. Parce qu'à 2000 euros, on la mettrait dans la difficulté.
Vous avez d'ailleurs un sourire en...
et part directement de l'Union soviétique. Il est payé à un prix dérisoire.
Quatre femmes et un enfant pendant 24 jours. Et en 2024, deux femmes.
Je vous rassure, je suis.
Partout à la Manche. Mais ce que l'on sait
d'autoroutes comme.
Régulièrement.
Non, ce qu'il disait, c'est qu'il a...
J'ai un tanguy chez moi, mon fils a 21 ans, il ne pense qu'à ça.
À peu près.
Sans trop réfléchir.
À peu près.
Donc, il y a tout un paquet...
Le bazar du tapis s'est adapté à la demande internationale étrangère. Il y a eu une perte de qualité au profit de la quantité et des tribus qui.
Il veut qu'on se capte, je parle. C'est vraiment
super. Ils ont besoin d'aide.
Mais à l'envers.
Donc on a perdu 133
et toutes les personnes qui sont.
Grosse. Qui vont commencer des études ou qui veulent travailler ou qui ont besoin d'indépendance vis-à-vis de leurs parents. Et puis il y a des enfants qui ne se sentent pas prêts. Il faut peut-être leur laisser le temps de trouver leur marque, trouver en eux la ressource pour avoir.
Les garçons sont meilleurs en géométrie. C'est parce que dans l'imaginaire collectif, dans l'imaginaire social, on pense que les filles aiment bien dessiner.
Et elle s'auto-persuade qu'elle dessine. On reparlera des filles et de l'accès des filles aux études scientifiques et mathématiques. On dit les Français fâchés avec les maths, et on s'appuie pour cela sur les classements internationaux. En Europe, nous serions même bons derniers. Est-ce un constat que vous partagez? Est-ce que la France n'est pas une nation mathématique?
Alors, j'ai envie de modérer un peu tout ça. D'abord, quand on dit que les Français sont les bons derniers, il faut savoir en quoi... On compare des élèves au collège, au lycée, à l'université, dans le monde de la recherche, ce sont des questions très très différentes. Si on regarde par dans le monde de la recherche, je le dis très fort à votre micro, La France est une grande nation mathématique au niveau recherche. Alors après, comment est-ce qu'on peut comparer un petit gamin français avec un petit gamin japonais ? Ils pensent pas de la même manière, ils parlent pas la même langue, ils ont pas les mêmes chiffres, ils ont pas la même culture. Donc je suis toujours un peu inquiet face à ces comparaisons de choses qui ne sont pas tout à fait comparables.
D'accord, mais à la fin des fins, la table des six, qui vous a donné du fil à retordre quand vous étiez petit, la table des six, elle est la même pour un Japonais que pour un Français.
Tout à fait, mais on ne l'apprend pas de la même manière, on ne l'apprend pas au même âge. En revanche, ce qui me semble beaucoup plus inquiétant, et là, il y a des sources qui sont vraiment fiables, c'est en revanche, si on regarde les résultats des tests pour des Français, au fil des ans, les mêmes tests pour les mêmes gamins qui ont 10 ans aujourd'hui et qui avaient 10 ans il y a 10 ans, alors là, on voit en effet une baisse de résultats. Donc là, je suis plus inquiet sur la baisse des résultats des Français.
Le niveau baisse. Donc, Étienne Gis, vous rendez hommage au début de ce livre à Monsieur Achille. C'est dans votre introduction, le prof qui vous a donné le goût des maths. Qu'est-ce qu'il avait de différent, Monsieur Achille? Comment il a fait?
Il y a un mot que j'aime bien employer en ce qui le concerne, c'est bienveillant.
Oui.
Et je pense que c'était une qualité majeure pour un instituteur, un professeur des écoles, comme on dit aujourd'hui. De mon temps, on disait un instituteur. Il avait cette bienveillance, il était capable de parler, de conseiller aussi bien un petit Étienne qui était plutôt bon en maths que le dernier de la classe qu'il protégeait comme il le fallait.
Les maths chez vous, c'était une génération spontanée? Vos parents étaient profs, pas profs?
Pas du tout.
C'est
pas
venu
du,
comme ça.
Pas du tout. Alors, je raconte toujours, je ne sais pas si c'est du genre souvenir reconstruit, j'en sais rien, mais quand j'étais petit, j'étais un garçon très, très timide. Je n'avais pas de copains. Et en fait, les maths, pour moi, c'était un moyen de m'isoler. J'avais mon petit monde à moi. J'allais à la bibliothèque prendre des livres pour en savoir un peu plus que ce qu'on apprenait à l'école. Et j'avais mon espèce de tour d'ivoire autour de moi.
Ce qui frappe dans votre livre, Étienne Gis, ma petite histoire des nombres, c'est que pour donner le goût des nombres, eh bien, il faut quand même raconter des histoires et savoir parler français. Et c'est votre cas. Vous racontez des histoires de chiffres, de numéros, de nombres. Et donc, il ne faut pas seulement être matheux pour s'intéresser aux maths.
Ah non, bien sûr. Alors, on dit souvent, c'est partiellement vrai, que les maths sont un langage. Hein, vous savez, il y a la belle phrase de Galilée qui disait que la nature s'écrit dans la langue des mathématiques. Et effectivement, les profs de maths le savent très bien, c'est que l'une des difficultés des élèves consiste à exprimer ce qu'ils souhaitent dire avec des mots, avec des verbes et avec des phrases cohérentes.
Vous avez...
D'ailleurs, je donne cet exemple dont je vous en parle dans mon bouquin, je crois. Alors, c'est un peu plus tard, quand j'étais en première, une fois, il y avait un devoir à la maison. Et comme j'étais plutôt bon en maths, je me suis dit, tiens, je vais faire un truc très bien. Je vais rédiger mon devoir uniquement en formule. Pas un seul mot. Et j'étais très fier de moi. Mais le prof m'a appelé et il m'a dit, tu sais, quand on écrit, c'est parce qu'on veut être lu. Et donc, il faut que tu écrives dans une langue. Alors, tu peux l'écrire en anglais, en français, en chinois, si tu veux. Mais la prochaine fois, tu écriras dans une langue que je comprends. Et je crois que c'était un très bon conseil.
Étienne Gis, vous en avez parlé. Les filles et les garçons ne voient pas certains exercices de la même façon et peut-être certaines disciplines de la même façon. Les jeunes filles ont du mal à s'orienter vers les matières scientifiques. Ça englobe les mathématiques, mais aussi la physique et également l'informatique. C'est un vrai sujet. Est-ce que votre génération de mathématiciens n'a pas pris trop de place par rapport aux mathématiciennes?
Bien sûr que oui. Alors, est-ce que la faute est sur ma profession? Est-ce qu'il faut la voir de manière plus globale? Est-ce que c'est une question plus de notre société? Les parents, à Noël, offrent plutôt des poupées aux filles je suis le petit chimiste aux garçons. Oui, c'est un problème sérieux qui n'a pas qu'une seule cause et qui va être très compliqué à régler, mais il faut y travailler avec force.
C'est un sujet que vous avez évoqué au cours de votre carrière, dont vous parlez à l'Académie des sciences. C'est préoccupant, sachant qu'on a des très bonnes mathématiciennes en France.
Hein. Oui, bien sûr. Alors, ce n'est pas seulement les maths, hein, c'est les sciences en général, mais plutôt les sciences du côté des maths. En effet, je vous recommande chaleureusement la lecture d'un rapport de l'Académie des sciences que nous venons de publier il y a quelques mois. C'est qui concerne les femmes et les sciences. Voilà, les femmes et les sciences.
Lundi, le président de la République et la présidente de la Commission européenne vont participer à une manifestation destinée à encourager les chercheurs à choisir l'Europe et la France, chercheurs étrangers, s'ils se sentent menacés dans leur liberté académique, éventuellement aux États-Unis, mais ça concerne le monde entier. Pensez-vous que cette initiative peut être utile ? Est-ce qu'on peut créer quasiment ex nihilo une génération de chercheurs additionnelle à celle que nous avons déjà en Europe ?
Alors, peut-être plusieurs choses qu'on peut dire là-dessus. D'abord, c'est que ce n'est pas que les Américains. L'Argentine est dans une situation catastrophique, du point de vue des chercheurs en particulier, mais pour d'autres aspects aussi. C'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'on regarde un peu l'histoire du monde. Il y a eu des grands bouleversements, par exemple, dans les années 30, où un grand nombre de mathématiciens allemands, scientifiques allemands, ont quitté l'Allemagne nazie pour aller aux États-Unis. Et aujourd'hui, les États-Unis empochent largement les bénéfices de cet investissement. De même, à la chute du mur, un grand nombre de mathématiciens ou scientifiques en général russes ont émigré. Donc ce sont des choses qui arrivent souvent dans l'histoire. À nous de le gérer convenablement. Il ne s'agit pas d'aller piller les Américains pour une raison très simple. D'ailleurs, on n'a pas les moyens financiers de le faire. Hein.
Oui, voilà. il faut raison garder. C'est-à-dire que un chercheur américain dans une très grande école ou une très grande université américaine, il est généralement mieux payé qu'un chercheur français.
Beaucoup mieux, oui.
Il a des conditions de travail extraordinaires. Ce qui veut dire qu'on est dans des cas particuliers. Quels sont les retours que vous avez de vos homologues, vos collègues universitaires ou chercheurs des États-Unis quand l'Europe annonce vouloir leur ouvrir ses portes, ils rigolent doucement ou ils disent « Ah ben merci, parce qu'on est un peu aux abois ».
À vrai dire, ils sont un peu sidérés.
Ouais.
Et n'ont pas de réaction très très vive. Et puis d'autre part, il faut dire que ça dépend aussi beaucoup des disciplines. Ceux qui sont sous les projecteurs, ce sont plutôt les biologistes, les sciences humaines aussi, hein, et puis aussi les sciences du climat. Mes petits copains mathématiciens sont un peu à l'abri, on n'a qu'à dire. Hein. Donc c'est une question qui dépend beaucoup de la discipline. Qu'est-ce que ça va donner ? J'en sais rien. Est-ce que notre président va trouver un gros paquet d'argent ? Je l'espère sincèrement. D'un autre côté, récemment encore, le budget de la recherche a été amputé de 500 millions d'euros. Va-t-il trouver le poteau rose ? On verra.
C'est pas évident parce que j'ai lu quelque part que l'installation d'un chercheur dans des conditions de travail acceptables, de logement, d'environnement, on est proche du million d'euros par personne.
Oui. Alors il faut voir aussi, encore une fois, c'est une chose qu'il faut dire et répéter, c'est que les sciences sont diverses et qu'un biologiste a besoin de beaucoup plus de financement, parce qu'il a besoin de matériel qui coûte extrêmement cher, beaucoup plus qu'un mathématicien. Alors, je ne vais pas caricaturer en disant « moi, j'ai juste besoin d'une feuille de papier et d'un crayon ». Si je dis ça, tous mes collègues vont me critiquer. Mais, bien entendu, les budgets sont très, très différents.
On parle matériel, justement. Étienne Gisse, vous revenez dans un chapitre de votre livre sur les machines qui ont aidé les hommes à calculer. Là, on commence avec le boulier et on termine avec la calculette japonaise qui a fait le bonheur des collégiens et des lycéens au début des années 80. Vous dites que c'est pas parce qu'il y a des calculatrices qu'on doit ignorer les tables de multiplication. Vous dites également que c'est pas parce qu'il y a le TGV qu'on n'a plus besoin de marcher à pied.
Bien sûr.
Très belle image. Comment l'intelligence artificielle impacte la recherche en mathématiques ?
Alors, j'ai combien de temps pour répondre à cette question ?
Vous avez tout le temps où vous voulez, jusqu'à 8h29. Il vous reste une minute.
Alors, moi, je trouve que c'est un nouvel outil qu'il faut manier avec précaution. Donc, par exemple, moi, j'utilise beaucoup... je peux utiliser l'intelligence artificielle pour me recommander des références que je ne connaissais pas. Par exemple, je peux demander à ChatGPT de me conseiller un article sur ce sujet. Il va aller chercher dans les banques de données des articles publiés, quelque chose qui pourrait m'intéresser.
Vous avez testé une IA sur une équation ou il vaut mieux pas ?
Ça, il vaut mieux pas. Par contre, si on cherche des choses plus intelligentes, donc de me conseiller des lectures, avec plaisir. Mais des équations, comme vous dites, vaut mieux pas essayer parce qu'il va vous dire n'importe quoi.
Étienne Gis, votre livre est truffé d'exercices, de réflexions, d'observations qui permettent de se familiariser ou de retrouver les mathématiques à côté desquelles on est passé. Un exercice là que vous conseilleriez à nos auditeurs pour s'y remettre?
Alors, je ne vais pas vous donner un exercice, je vais vous poser une question.
Oh là là.
Encore plus, c'est une question dont personne ne connaît la réponse. C'est ce qu'on appelle le problème de Syracuse. Alors, je vous explique, c'est très simple. Prenez un nombre entier, 5.
Ouais.
S'il est impair comme 5, vous le multipliez par 3 et vous rajoutez 1. 3 fois 5, 15 et 1, 16.
Oui.
S'il est pair, vous divisez par 2. 16 divisé par 2, ça fait 8.
Oui.
Et puis, vous recommencez. 8 divisé par 2, 4, 2, 1. Eh bien, on pense... Mais personne n'a réussi à le démontrer, que quel que soit le chiffre dont on part, tôt ou tard, on arrive à 1.
Tôt ou tard, on arrive à 1.
Par exemple, 3.
Oui.
3 fois 3, 9 et 1, 10.
Oui.
Divisé par 2, 5.
Oui.
3 fois 5, 15 et 1, 16.
Oui.
8, 4, 2, 1.
On revient toujours à 1.
On arrive toujours à 1 et ça fait des lustres qu'on cherche à le démontrer.
Et on n'y arrive pas.
Peut-être qu'un de vos auditeurs trouvera la solution.
On verra. Si vous avez la solution au problème posé par Étienne Gis, vous nous écrivez sur radioclassique.fr. Étienne Gis, ma petite histoire des nombres, c'est paru chez Odile Jacob, monsieur le mathématicien. Merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Hervé.
Bonjour.
La presse d'aujourd'hui s'intéresse aux valeurs refuges.
Et d'abord la plus célèbre d'entre elles, l'or, le métal qui brille en ce moment. Le Parisien y consacre sa une avec une petite pile de lingots pour l'illustrer. Le cours de l'or atteint des records, près de 3000 euros l'once il y a quelques jours. Une once, ça fait 28 grammes pour ceux qui l'ignorent. Et cette flambée traduit bien les incertitudes et les peurs qui parcourent la planète, écrit l'éditorialiste du quotidien Olivier Auguste. Pendant que Donald Trump se focalise sur les métaux rares en Ukraine, sa politique économique rehausse le prestige du métal jaune, donc son prix, car à l'inverse, les valeurs refuges habituelles que sont les bons du trésor américain et le dollar perdent la confiance des investisseurs. Même les fonds de pension asiatiques achètent de l'or physique, écrit le Parisien, de l'or en barre, des lingots venus de Suisse qu'il faut transporter et stocker. Eh bien, malgré ces coûts supplémentaires, ça vaut encore le coup.
Avec un P à coût. L'autorité, et notamment celle des forces de l'ordre, est-elle encore une valeur refuge ? On peut se le demander à la lecture du Figaro.
Avec ce chiffre qui laisse pantois, il y a sur les routes de France 70 refus d'obtempérer par jour, un toutes les 50 minutes. Le chiffre résulte du dernier bilan du service statistique du ministère de l'Intérieur. Et le pire, c'est qu'il montre une amélioration. Le nombre de refus d'obtempérer a diminué de 2% en un an. Il peut s'agir aussi bien de conducteurs qui veulent échapper à un contrôle que de chauffards en fuite, ou même d'auteurs d'infractions qui tentent d'échapper à une arrestation. Tous mettent en danger d'autres usagers et les policiers ou les gendarmes, il faut le répéter. Le Figaro note que le Vaucluse et la Seine-Saint-Denis sont les départements où les refus d'obtempérer sont les plus nombreux, du moins en métropole, car en Guadeloupe et en Martinique, il y en a deux fois plus. Les trois quarts des auteurs de ces refus d'obtempérer ont moins de 30 ans. Dans 84% des cas, ils sont condamnés à des peines inférieures à un an de prison.
Surtout que refuser d'obtempérer sur une île, c'est pas très efficace parce qu'on finit toujours par vous retrouver sur une île. Hein.
C'est malin.
Le latin est une valeur refuge, lui aussi, de moins en moins sans doute, et on peut le regretter. La question est posée par Madame Figaro.
L'apprentissage des langues anciennes est en recul constant, on le sait. En 2023, souligne le magazine, seuls 9,2% des élèves collégiens et lycéens réunis avaient étudié le latin au moins un an, au grand désespoir des profs de lettres classiques. L'université américaine de Princeton a même mis fin aux enseignements obligatoires du latin et du grec pour les étudiants en culture antique. C'est à y perdre son latin. Pourtant, apprendre la langue des Romains, c'est étudier l'histoire, l'art, une religion polythéiste, comprendre une société disparue ou tapie au fond de nous, dit à Madame Figaro un professeur qui fait campagne sur YouTube pour continuer le combat. Et il a du succès car il y a des résistants. Le pape François tweetait en latin, il avait 1 million d'abonnés. Un Finlandais a adapté Elvis Presley dans la langue de Cicéron. Si ça vous intéresse, je vous le dis, Blue Sweat Shoes se traduit par Glaudi Calcei. Il existe même une traduction latine de Harry Potter. Le latin n'a donc pas dit son dernier mot.
Et puis mercredi, vous nous parliez d'Astérix. Alors, il y a du latin dans Astérix qui est très approximatif, mais j'ai commencé la série hier. C'est formidable et c'est sur Netflix, pas sur Netflix.
Mais c'est en français.
C'est en français, évidemment. Mais enfin, les Romains manient un peu de latin. Vous parliez du pape, la presse italienne s'agite autour d'une rumeur selon laquelle Emmanuel Macron chercherait à influer sur le choix du successeur de François.
Le Monde et le site de Courrier International s'en font l'écho. Plusieurs journaux italiens classés à droite prétendent depuis quelques jours que le président français voudrait pousser ses candidats sur le trône de Saint-Pierre. Rien que ça. Le quotidien Libéraux, par exemple, a titré « Macron s'incruste même dans le conclave » et Il Tempo évoque un interventionnisme digne d'un moderne roi soleil. Le tout parce qu'après les obsèques de François, Emmanuel Macron a déjeuné avec 4 des 5 cardinaux français qui vont participer à l'élection du pape et qu'il a dîné la veille avec le chef de la communauté Sant'Egidio, réputée influente au Vatican et qui était proche du pape François. Dans La Croix, un long article explique, beaucoup plus raisonnable, que outre les 133 cardinaux électeurs, c'est une autre personne qui pèsera sur le choix du pape, l'Esprit Saint. Les échanges entre cardinaux...
Henri Guérin, vous avez vu jouer beaucoup d'équipes au Monde. Bien sûr, vous êtes responsable de l'équipe de France. Mais quel est votre favori pour cette Coupe du Monde 1966?
Eh bien, vous me prenez non pas de cours, parce que cette question-là m'a été posée souvent de fois depuis dans les dernières semaines qui précèdent le départ de cette Coupe du Monde. Mais enfin, tout de même, je pense que les Anglais, je vais droit au but, les Anglais jouant chez eux ont une belle chance. Maintenant, je dois dire que chaque Coupe du Monde a apporté de grosses surprises. Nous avons vu le Chili se qualifier brillamment pour les demi-finales et prendre une troisième place. Nous avons vu aussi la Tchécoslovaquie, un peu d'une façon inattendue, arriver en finale au Chili. La Suède elle-même avait fini seconde dans le championnat qu'elle organisait en 58, et la France, contre toute attente, avait terminé troisième. Je crois que, et je me souviens aussi des jeux de la Coupe du Monde de 54, où la Hongrie, grande favorite, a même été battue par l'Allemagne dans ce championnat du monde.
Je crois d'ailleurs qu'en règle générale, le pays qui organise se place toujours très bien en Coupe du Monde. Quelquefois, il la remporte, c'était le cas pour l'Uruguay et l'Italie. Il arrive souvent en finale, donc c'est une chance de plus pour l'Angleterre de l'emporter.
Je suis très heureuse d'être ici parmi vous, vient de dire la reine, et elle ajoute, je souhaite la bienvenue à toutes les délégations, et je déclare ouverte la 8e Coupe du Monde de football.
Deuxième figure imposée, justification de la défaite avant le match.
Alors Robert, c'est un peu le problème des Mexicains devant les Français. La virtuosité technique des Uruguayens risque de paralyser nos défenses.
Et là, il est exact que la virtuosité technique étalée par les Latins est extrêmement gênante pour nos défenseurs. C'est certain qu'il va falloir essayer aussi d'empêcher cette circulation de balles.
Et alors maintenant en attaque.
Ah oui, alors là pour moi c'est le gros problème, vous voyez. C'est le gros problème en ce sens que c'est la partie, si vous voulez, qui pour moi a été la moins satisfaisante. Non pas que l'on ait manqué de bonne volonté, mais enfin...
Pas de collectif.
Ah, puis surtout aucune aide au porteur du ballon. On a laissé le porteur du ballon prendre lui-même toutes les décisions sans lui proposer quoi que ce soit.
Ah oui, oui. Alors, De Bourgoin. De Bourgoin, c'est une bonne chose. C'est un bon technicien, il sait garder la balle, il connaît les Uruguayens.
Je crois, je pense. Et puis alors, je pense que... la rentrée de Simon aussi doit apporter quelque chose, car c'est un garçon qui
il joue bien son ballon,
très disponible. oui, sans ballon, je crois qu'il apportera quelque chose.
Alors, autrement dit, nous jugeons l'équipe de France que ce soir, c'est ça?
Je préférerais, je voudrais pouvoir ce soir avoir un grand sourire avant de m'aller.
Ben, nous aussi, oui.
Troisième, figure imposée. L'équipe de France est éliminée, mais sort de la compétition la tête haute.
Pour la 8e Coupe du Monde, c'est sans doute l'un des matchs les plus passionnants que l'on a vécu hier soir lors de la rencontre France-Uruguay. Devant l'Uruguay, la France s'est battue jusqu'au bout. Elle a pratiquement mené le jeu de bout en bout, à commencer par la 16e minute où De Bourgoin réussissait pour la France un pénalty.
Un joueur qui est en position derrière gauche manque cette balle, tombe au moment où il voulait la dégager. Et la balle revient maintenant dans les pieds de Jorquez qui parvient quand même à la dégager pour servir Cortez. La balle revient immédiatement dans le camp français. Attention, Bonnel, Simon qui s'impose là aux dépens avec Bosquier. Bosquier, très bonne ouverture sur Hervé. Hervé va-t-il récupérer la balle avant qu'elle ne sorte? Oui, en position des droits. Trouve Buzinski en point d'appui. Lequel Buzinski remet immédiatement la balle sur Hervé. Très bon. Voilà là. L'arbitre a dit pénalty. Pénalty, Malin Serra ayant fauché Hervé dans la surface de réparation, le pénalty est logique encore que peut-être juste à la limite, soyons logiques.
Non, alors là, je ne vais pas vous suivre l'analyse, j'ai vu l'action, je crois que l'arbitre a jugé dans l'esprit, car l'accrochage sur Hervé, à mon sens, a été fait juste à l'extérieur de la surface de réparation, c'est exactement comme sur Rondé l'autre, mais c'est bien à la limite, c'est tout au moins sur la ligne, et dans l'esprit, donc justement l'arbitre a estimé que puisqu'il y a doute, eh bien il accorde le pénalty. Et c'est parfaitement justifié car le chemin du but est largement ouvert à Hervé. Et voilà qui nous a confirmé combien les redoublements de passes étaient décisifs. Et voici maintenant la responsabilité du pénalty. Ce n'est pas de Bourgoin, vous pensez. Le gardien a bougé. Mais il est temps. Et 1-0 pour la France. Alors là, écoutez, c'était absolument magnifique. Alors écoutez, magnifique. Parce que ce redoublement de passe, tenez-vous bien, vous savez par qui il a été fait, par Buzinski. C'est même pas un inter, donc ça prouve que cette équipe de France qui était figée l'autre jour, qui était contractée, et bien maintenant c'est Buzinski qui au passage, rappelons-le, ne joue pas bétonneur aujourd'hui, mais joue défense de ligne, alors c'est Arteleza qui joue bétonneur. Buzinski s'est intégré à redonner Hervé extrêmement rapide, extrêmement prompt, et vous voyez cette défense uruguayenne, on a trouvé une faille dedans, on a trouvé un trou, 1-0 pour l'équipe de France, et bien vous savez... Vraiment, ça fait plaisir parce que l'autre jour, je vous le disais, nous vous le disions tous, et qu'il soit si mauvais, ce n'est pas possible, il y a quelque chose qui ne s'explique pas. Eh bien, les voilà, la balle est repartie. Très bien joué maintenant. Les dédoublements de passe. Simon qui reprend cette balle, qui évite un adversaire, mais qui la laisse involontairement. Mais le pressing français a interdit aux Uruguayens de trouver une ouverture.
À la 27e minute, sursaut des Uruguayens par Rocha qui va égaliser.
Malin Serra qui prend cette balle à la limite de la surface de réparation française. Attention, ça peut être dangereux. Les Uruguayens eux aussi se massent maintenant devant nos buts. Balle en cloche, remise de la tête par Rocha sur Sassia. Maintenant, voilà, c'est Caetano qui reprend cette balle. Hervé, oh là, qui adresse une très bonne balle à un de ses adversaires. Fort heureusement, celui-ci fait une fantaisie et la balle est dégagée. In extremis, Rocha. Rocha, Viera. Viera en position d'ailier droit qui arrive trop tard sur cette balle. Attention, oh là là, très bien joué, but. Ah, un but splendide. But splendide de Viera qui, lui, a redonné la balle dans de bonnes conditions. Et alors que Hervé, lui, franchement, l'a redonné à l'adversaire, alors là, de manière inconsidérée, autant Hervé avait été brillant sur le raid qui amena le pénalty français, autant Hervé a été décevant. En effet, il s'est affolé. Il y a eu, il faut le reconnaître, un moment de flottement dans la défense française. Tout est à refaire, un but partout. Et bien maintenant, on peut donc dire que les Uruguayens ont redressé une situation compromise. Mais de toute façon, les 25 premières minutes nous ont confirmé une chose. L'équipe de France est décidée à prendre tous les risques. Et rien que pour ça, nous devons la féliciter.
La fin du match va survenir sur le score de 2-1 en faveur de l'Uruguay. Pour la 8e Coupe du Monde de football, on peut dire que tout est terminé pour la France. Voici les dernières minutes du match.
L'arbitre laisse ses actions se développer, très bien joué. Et toujours, toujours en avant de Bourgoin. Et voici, la balle va se perdre là-bas, très loin, très loin, très loin, dans les virages de White City, dans le dernier virage de White City. Et je vois Paul qui chronomètre, une minute. Je regarde aussi les aiguilles de notre chronomètre. Est-ce que l'arbitre a décompté le temps? Oui, les arrêts de jeu, comme dit Jean, il a raison. D'autre part, cette indication de l'arbitre, M. Galbal, le Tchécoslovaque, qui a fait savoir aux Uruguayens que tous ces petits procédés, ça ne marchait pas, que ce n'était pas normal et qu'en conséquence, quand ils agissaient ainsi, il a arrêté son chronomètre et maintenant il le remet en marche, ce chronomètre. mais sait-on jamais, beaucoup d'arbitres font de telles menaces et ils ne décomptent pas le temps quand même. De toute façon, les Uruguayens n'ont plus qu'un homme, deux hommes en attaque. Ils usent simplement de la contre-attaque. Et vraiment, il est vraiment regrettable que ce tir de Hausser, tout à l'heure, ait été écrasé sur la barre transversale. Ces tirs de Bourgoin au début de la seconde mi-temps, lorsqu'on aurait dû égaliser, c'est le coup de sifflet final. Eh bien, ce coup de sifflet final sanctionne, à mon sens, l'élimination de la France de cette Coupe du Monde. Tout au moins, elle disputera son match contre l'Angleterre, mais il ne faut plus espérer voir figurer les tricolores en quart de finale. Mais c'est au moins une occasion de nous féliciter de n'avoir pas été trop sévères l'autre jour lorsqu'ils étaient paralysés dans le stade de Wembley devant les Mexicains. On dira que ce sont les modifications apportées à l'équipe qui ont été à l'origine d'une transfiguration des tricolores. Pas du tout. Les tricolores aujourd'hui étaient ce que nous les avions connus lorsqu'ils étaient au stage de Peebles. Il ne s'agit pas de faire de discrimination entre les uns et les autres. Ils étaient animés d'une magnifique ardeur comme ils l'étaient d'ailleurs l'autre jour. Mais aujourd'hui, ils étaient décontractés. Ils savaient qu'ils n'avaient rien à perdre. Et pour l'instant, je crois que c'est le symbole de cette rencontre. Une rencontre qui en définitive nous réconcilie avec l'équipe de France et une rencontre qui a été disputée de façon extrêmement correcte, et Paul a raison, avec le football, quand on a bien joué au football.
Dans l'équipe de France de foot, vivement qu'ils reviennent, avec eux ce serait parfait. Raymond Coppin, Mimoun, puis Anthony Fontaine, ça me plaît plus comme ça me plaisait.
Et nous allons laisser le soin à un Africain footballeur professionnel à l'association sportive de Cannes, Abdoul Yansane. Nous allons donc lui laisser le soin de tirer la conclusion de cette 8e Coupe du Monde qui fut une grande compétition.
L'équipe qui a manifestement le plus dessus, c'est le Brésil. C'est dommage d'abord pour le football brésilien, mais je crois qu'ils se ressaisiront. Pour ce qui est des équipes, il faudrait penser d'abord à l'équipe anglaise qui, ma foi, à créer le football, qui maintenant vient de gagner cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, vu ces derniers résultats, ça a été confirmé en Coupe du Monde. Ils ont eu une défense qui a été très solide, bien que l'attaque ait été un peu faible. Mais la défense étant très solide, ils sont comportés le mieux du lot. Et finalement, ça a été la meilleure équipe.
C'était Rétro, une coproduction INA Radio France. Une émission d'Arnaud Laporte, mixage Claude Jubier, réalisation Annie Flavel, avec des documents INA de 1938, 1941, 1965 et 1966, collectés par Florence Lucet.
C'était Rétro, le football sans l'image. Une émission d'Arnaud Laporte, diffusée pour la première fois le 14 juin 1992.
Un an après les violences du printemps 2024, dans quel état se trouve la Nouvelle-Calédonie ?
Nicolas Herbeau.
Alors que le ministre des Outre-mer a engagé cette semaine de nouvelles discussions sur l'avenir institutionnel du territoire français du Pacifique Sud, la situation économique et sociale reste très préoccupante. Politiquement, tout est également instable. La question de l'héritage colonial paraît incontournable, explique l'anthropologue Benoît Trépied dans son dernier essai. Il est notre invité.
Les matins du samedi, ce samedi à 7h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Dans Itinéraire d'un cinéphile, Serge Danet le disait sans embâge à Régis Debray. « J'ai un amour des cartes postales qui ne s'est jamais démenti. J'en ai envoyé des tonnes à tout le monde pendant toute ma vie et la carte postale, c'est mon vrai rapport à l'image. » Pour des raisons encore plus profondes, encore plus enfouies que le cinéma. Je trouvais que le cinéma, c'était très basique, très populaire. La carte postale, c'est encore plus bas. C'est dans des présentoirs et tout le monde les envoie et écrit derrière. Et on peut écrire des cartes postales en langage très codé. On peut écrire des poèmes, on peut écrire des trucs d'amour. Suffit de l'écrire d'une façon telle que même ceux qui la liront ne la comprennent pas. Mais les collectionneurs de cartes postales sont-ils eux aussi, comme l'était Serge Danet, de grands rédacteurs, de grands pourvoyeurs de cartes postales ? Peut-être pas. Alors que font-ils ces collectionneurs ? Que que cherche-t-il en les accumulant ainsi ? C'était en 1995 ce que proposait de découvrir le numéro de L'Échappée Belle que nous allons entendre. Une émission dans laquelle des cartophiles en tout genre levaient le voile sur la passion qui, par exemple, avait poussé celui-là à se spécialiser dans la carte postale fantaisie et celui-ci à se fixer sur la carte postale de prison et de bagne, puisqu'en matière de carte postale, comme en bien d'autres domaines, les goûts et les couleurs ne sauraient être discutés. L'Échappée Belle, les univers de la carte postale, une émission proposée par Thierry Aveline, diffusée la première fois le 5 mai 1995 sur France Culture. Réalisation, Marie-André Arminot.
La carte postale se différencie de la lettre car elle n'est pas cachetée. Elle navigue au grand jour. Elle est, comme le définit le philosophe Jacques Derrida, une lettre ouverte où le secret paraît, mais indéchiffrable. Secret décryptable par l'expéditeur et son destinataire uniquement. La carte postale, c'est une relation où se côtoient le visible et l'invisible, où l'on passe à travers le miroir, comme chez Lewis Carroll ou Jean Cocteau, comme Alice au Pays des Merveilles ou l'ange Ortebise dans le film Orphée. Jean Baudrillard dit que le collectionneur est maître d'un sérail secret. Alors qui sont les cartophiles ? Quelle quête, quelle passion les mène ? Quelle motivation se dissimule derrière toutes ces images qu'ils rassemblent ?
Pour moi, la carte postale, c'est un hobby. Bon, c'est quelque chose qui m'a apporté énormément dans ma vie parce que ça me permet de réaliser un vieux rêve d'enfant où je voulais voyager, où j'aimais beaucoup l'histoire et la géographie. C'était mes parties fortes quand j'étais gamin. Et en fait, la vie vous prend au quotidien. Vous vivez 25, 30, 30, 40 ans, puis vous apercevez au bout du compte que vous n'avez pas réalisé ce que vous vouliez peut-être faire. Et la carte postale a été pour moi la façon d'aborder et de réaliser mon rêve d'enfant.
Là, vous avez la pièce carte postale avec toutes celles qui sont en album. Et puis là, vous avez toutes celles qui sont placées en boîte. Moi, j'ai commencé à collectionner, j'avais 15 ans. Alors, ça fait plus de 50 ans, ouais. C'est pas d'aujourd'hui. Ouais. J'avais tous mes amis qui étaient...
Quando suoni la chitarra, quando devi poi sapere, sono già un po' impaziente, quando finalmente, quando quando suoni la chitarra, quando devi poi sapere, sono già un po' impaziente. Peccato, ecco, mai sfiorato.